Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau Buzz TV en direct. Il est 9h, nous sommes un peu plus matinales que d'habitude. Vous allez le voir, notre invité du jour, un acteur époustouflant, capable d'interpréter à la perfection une très large palette d'émotions. Il nous a fait mourir de rire dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou Coco. Il a mis vos zygomatiques à l'épreuve dans À bras ouverts. Vous aimerez également le voir dans Le décor de Vendredi, Tout est permis. Mais attention, cette fois-ci, cet acteur s'apprête à vous scotcher à votre canapé dans une fiction poignante où personne ne l'attendait. Bonjour Harry Habitant. Merci d'être avec nous aujourd'hui et en cette matinée, Apprendre à t'aimer, c'est le titre de la fiction qu'M6 diffusera ce soir à 21h05. Une fiction assez incroyable hein, dans laquelle vous allez vous glisser dans la peau d'un papa qui apprend soudainement que sa fille qui vient de naître est atteinte de trisomie 21. Est-ce que ce soir, Harry, en regardant M6 et Apprendre à t'aimer, vous serez aux côtés de Julie de Bonin, hein, il sera possible de ne pas verser une larme avant la fin. Ça semble impossible.
Le but, c'est pas. En fait, c'était de toucher les gens avec cette histoire. Et encore une fois, moi, j'étais très surpris aussi par Stéphanie Pilanka qui est venue voir mon spectacle, a priori comique. Et à la fin du spectacle, elle vient me voir, elle me dit j'ai envie de t'écrire un rôle. Donc je m'attends à un énième scénario comique.
Et on voit la bande-annonce, évidemment.
Et je lis ça, je suis bouleversé par cette histoire. Je relis une deuxième fois et j'appelle Stéphanie en disant évidemment, je veux le faire. Ouais. Et 3 mois après, on a tourné, ça s'est fait très rapidement.
Alors, la trisomie 21, c'est un sujet lourd, compliqué, parfois même encore un peu tabou et surtout douloureux pour ceux qui y sont confrontés en vrai. Quel ton la fiction adopte, le ton général, pour nous aider à appréhender cette question et la traiter au mieux, le problème de la trisomie? C'est doux, amer, on rit aussi, hein, évidemment, on n'est pas du tout que dans le pathos.
Vraiment, c'est ça, en fait. Évidemment, c'est triste, mais on se marre aussi. C'est la vie, quoi, tout simplement. En fait, moi, j'ai abordé ce personnage en étant simplement père de 3 enfants. Et je me dis, mais si ça m'était arrivé, en fait, comment j'aurais réagi? Voilà comment je me suis préparé.
Vous êtes partie de vous, tout simplement.
Je suis partie de moi, tout simplement. Évidemment, j'ai eu la chance de rencontrer aussi les parents de Naomi, qui joue avec nous, les parents de Colline aussi.
Les petites filles, hein, qui
étaient
trois.
Les petites filles qui ont joué dans ce film. Et j'ai eu la chance aussi de pouvoir avoir quelque chose de très fort avec l'actrice qui jouait avec moi. Le premier jour de tournage, on s'est adapté.
Julie de Bonin.
Il y a eu Julie de Bonin aussi, évidemment, et la petite Naomi. On s'est dit comment ça allait se passer. Vous savez, au cinéma, c'est compliqué de tourner déjà avec des enfants. Alors, avec des enfants trisomiques, on s'est dit comment ça allait se passer. Ouais. Premier jour de tournage, donc j'arrive, elle est dans les bras de Stéphanie Pilanka, la réalisatrice et l'auteur, et elle me regarde et elle me tend les bras, comme si elle me disait « c'est bon, on peut y aller ». Et en fait, elle a mis tout le plateau à son diapason. Et ils ont tourné, comme elle sait le faire, caméra à l'épaule, façon documentaire. Et vous allez voir ce film, et c'est, pour moi, c'est vraiment d'une réalité incroyable.
Un vrai réalisme.
Parce qu'on s'est mis, en fait,
à sa disposition.
Et j'ai été bouleversé. Elle m'a donné vraiment énormément d'amour. On s'est tout de suite aimé, quoi. Donc voilà, elle était dans mes bras tout le plateau, tout le tournage. Et chaque fois qu'elle pleurait ou j'entendais pleurer, je disais « donnez-lui tout ce qu'elle veut
okay. !» Ben ça, si c'est pas du teasing pour cette fiction, on est en direct, je le rappelle, avec Harry Habitant sur Figaro Live. Nous sommes également sur tmag.com et puis, bien sûr, sur la page Facebook de TV Magazine, en live, cette page Facebook sur laquelle vous pouvez poser toutes vos questions à notre invité. Êtes-vous un fan de la première heure d'Harry Habitant? Qu'attendez-vous de ce rôle dramatique? Dans quel registre vous le préférez? N'hésitez pas, vous pouvez poser toutes vos questions, vos suggestions, vos remarques. Il répondra après les news médias de Damien Canivez. Salut Damien.
Salut Nicolas, salut Harry.
On démarre tout de suite avec les audiences qui ne sont pas encore arrivées, qu'on va voir dans quelques instants. Et on attend évidemment une audience.
Et il y a un gros chiffre qui va tomber.
Et un gros chiffre, sans doute. Ouais. On va commencer cette chronique par un nouveau présentateur télé positif au Covid-19.
Exactement, c'est un peu notre Kylian Mbappé du PAF, pour vous dire la vérité, parce qu'il partage évidemment son talent, mais désormais, les couvillons qui leur a chatouillé la cloison nasale montrent qu'ils ont un point commun un petit peu moins réjouissant. Malheureusement, le journaliste Alain Marchal a été testé positif au coronavirus. Alors, l'animateur des grandes gueules sur RMC a donc été contraint de lâcher temporairement les rênes de l'émission et de laisser son collègue Olivier Truchot seul aux manettes du programme. Alors comme ce dernier a côtoyé le malade au cours des derniers jours, il présentera le talk show toute cette semaine seul et depuis son domicile. Il retrouvera le chemin des studios si et seulement si le test qu'il effectuera en fin de semaine se révèle bien sûr négatif. Olivier Truchot a également tenu à donner des nouvelles rassurantes de son compère. Alain Marchal a connu un épisode de fièvre, mais il va mieux et se repose. Et nous aussi, on lui souhaite un prompt rétablissement quand même. On va être sympa.
Votre cas dans pas longtemps.
Peut-être.
Non. Vous êtes... pas sur les plateaux télé. On
plus, est loin, nous.
On a plus d'1m50 largement. Et vous pouvez aller voir les audiences. Damien, elles sont tombées. C'est assez énorme en effet. Harry, évidemment, on vit une période compliquée, difficile, le confinement. Vous, qu'est-ce que ça vous évoque tout ça? Est-ce que vous êtes un peu dans la paranoïa? Est-ce que vous êtes du genre à suivre strictement tout ce que demande le gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez de cette période actuelle qui est difficile, et notamment pour votre secteur, qui est notamment celui de la culture, du cinéma, du théâtre?
Effectivement, on est un peu les derniers de la classe là-dedans. C'est de ça dont on parle. C'est-à-dire qu'en fait, on aimerait vraiment que les théâtres et les cinémas ouvrent, que les gens viennent au cinéma et que ça reprenne de manière normale, en fait, tout ça. Je pense que...
Roland Garros a annoncé hier une jauge à peu près à la moitié des stades, c'est-à-dire 11 500 personnes sur un stade de 20 000.
Oui, bon, c'est ce qui se passe aussi dans les stades de foot. Ouais. Ça fait une peine folle de voir les stades de foot vides, les réunions sportives comme ça, où c'est vide, où il n'y a personne. Vraiment, il y a une odeur bizarre de tout ça, mais on doit s'adapter. Il faut évidemment porter des masques, il faut évidemment respecter les règles sanitaires et profiter chaque jour de ce qu'on a, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que il y a un flou artistique, on ne sait pas ce qui va se passer plus tard, et ça remet peut-être les choses en fait.
Ça vous a permis de revoir d'autres choses de votre vie, le confinement, d'être
en
famille.
C'est-à-dire tout simplement de profiter de chaque jour, d'essayer de ne pas penser à l'avenir et de ne pas penser à ce qui s'est passé et de profiter de ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, tout simplement. Et évidemment, de ne pas se dire que on va pouvoir jouer au cinéma ou au théâtre dans 2 mois. Voilà, à l'époque, c'était ça. On se disait, je joue dans 6 mois et puis après, dans 1 an et demi, je reprends ça.
On voit annulation. Le dernier en date, Gad Elmaleh, que vous connaissez bien, qui a annulé sa tournée.
C'est ça qui fait le plus de peine parce que d'abord, on a envie de jouer et puis il y a aussi les spectateurs.
Et on a envie de les voir aussi.
On reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y aura des jours meilleurs. Tout ça va passer, ce ne sera qu'un mauvais souvenir et on profitera encore plus de ce qu'on avait avant et peut-être qu'on se
peut-être
doutait pas.
Même. Voilà, oui. Damien, on continue avec le journal L'Humanité qui a décidé d'écarter tout simplement son dessinateur SP.
Effectivement, le quotidien avait mis en ligne le week-end dernier une caricature représentant la consultante de France Télévisions, Marion Rousse, en petite tenue, assise sur un lit aux côtés de son compagnon Julien Alaphilippe, qui participe actuellement au Tour de France. Alors celle qui commente actuellement la Grande Boucle aux côtés d'Alexandre Pasteur a réagi dimanche dernier sur son compte Twitter faisant part de son indignation. Et on a appris hier que l'Humanité avait, après avoir présenté ses excuses, avait décidé de se séparer d'SP, l'auteur de ce dessin, ainsi que du chroniqueur Antoine Weyer. Le dessinateur a confié à l'AFP qu'il était désolé, qu'il ne souhaitait bien sûr pas blesser qui que ce soit et a reconnu tout de même s'être planté.
Je ne sais pas si forcément cette caricature vous choque, mais est-ce qu'aujourd'hui, ça devient compliqué de faire de l'humour? Vous qui êtes à la base un humoriste, qui fait du one-man, qui en avait fait des dessins caricatures, on a l'impression qu'aujourd'hui, on touche au moindre truc, soit la religion, la femme, quoi que ce soit, tout de suite, c'est compliqué.
C'est commenté.
Commenter,
c'est pas compliqué en fait, c'est juste commenter. Ouais. Et c'est commenter et ça arrive dans notre main avec le portable, avec Twitter et avec tous les réseaux sociaux. Donc,
il suffit d'une vague d'indignation pour faire virer quelqu'un après, ça peut suffire.
Ah oui, je vois ça, Alors oui, effectivement, il faut faire attention, mais en général, les gens ne veulent pas faire de peine ou pas le faire de mal, ils veulent faire de l'humour. Mais effectivement, c'est compliqué. Eh ben, on s'adapte aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ?
Vous faites gaffe, vous tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, de sortir une blague maintenant
ou... Non, je fais gaffe à ne pas blesser, en fait. Je fais gaffe à ne pas faire... Parce qu'on ne veut pas faire mal. La plupart des gens qui font de l'humour ne veulent pas faire
mal. Absolument,
voilà. On veut faire rire. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, est-ce qu'on doit rire de tout ? C'était ça la question. Bah, il faut s'attendre à rire tout seul.
En tout cas, ou avec des copains qu'on connaît bien, en tout cas. Voilà. Damien, on termine
oui.
avec les audiences. Elles sont tombées.
Effectivement.
Alors, Grégory Lemarchal, qu'est-ce que ça a donné ?
Je vais essayer de me relire, Nicolas, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que sans surprise, TF1 a explosé la concurrence, dynamité la concurrence. Le téléfilm portant sur Grégory Lemarchal a fédéré 7,3 millions de téléspectateurs, 32,5% du public. À titre de comparaison, c'est 4 millions de téléspectateurs de plus que France 2 qui arrive sur la deuxième marche du podium avec La Garçonne, hein, la série portée par Laura Smet. Et sur la troisième marche du podium, on retrouve Philippe Etchebest qui finalement signe une stabilité sur une semaine, comme toujours. Lui, de toute façon, il ne bouge pas.
Il est assez fidèle.
2,5 millions de téléspectateurs, donc devant le numéro de Cauchemar en cuisine. Mais une fois de plus, effectivement, on peut saluer la belle performance de TF1 sur ce biopic qui retrace, on le rappelle, l'histoire de Grégory Lemarchal et son combat contre la mucoviscidose.
Et qui était attendu au vu de la popularité. Ouais. Et on vous donnera la semaine prochaine l'audience consolidée qui est toujours intéressante. On rappelle que Jacqueline Sauvage avec Muriel Robin avait fait 7,5 millions plus 1 million en replay. Mmh. Donc évidemment, aujourd'hui, ça s'additionne et ça compte. Est-ce que ce type de score, c'est quelque chose qui vous rassure avant ce soir ? Vous allez être face à France-Croatie, tout simplement. Un petit match de foot, revanche de la finale de la Coupe du Monde.
Et la stagiaire en plus.
Et la stagiaire qui marche assez bien. Est-ce que la fiction française, de manière globale, aujourd'hui, fait des bonnes audiences ? Capitaine Marlowe, la série numéro 1 en France, tout genre confondu et tout pays confondu. Ça vous rassure, Harry ? Il y a une meilleure qualité aujourd'hui des fictions françaises.
Est-ce que ça me rassure d'avoir France-Croatie ?
Non, peut-être pas. Ça, c'était pour vous taquiner un peu.
D'avoir un remake de la finale de la Coupe du Monde en face de votre premier téléfilm.
Il n'y a pas Mbappé, en tout cas. Mbappé est forfait, hein, parce qu'il a été testé positif, donc ce sera déjà moins.
D'accord, Mbappé est forfait, mais bon, je ne sais pas quoi vous dire. En fait, franchement, on a fait quelques projections un peu partout. Les gens adorent ce film. Ouais. Et je reçois énormément de très beaux messages sur les réseaux sociaux pour ceux qui l'ont vu. Et pour ça, déjà, on a déjà gagné. Après, ça ne nous appartient pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? C'est toujours pareil. C'est comme le mercredi à 14h au cinéma.
Bien sûr, pour la première séance.
Ouais. Ouais, encore là, à la télévision, on a le droit à une deuxième chance.
S'il y a les replays aussi,
avec les replays,
les gens qui peuvent revoir. Avec
toutes les applications où il y a des replays, comme Molotov et tout ça. Donc, on va attendre, évidemment, tranquillement les audiences. Mais on est déjà très heureux par ce téléfilm qu'on adore. On est déjà très heureux par l'engouement que prennent ce film avec les réseaux sociaux et les commentaires. Donc oui, on va attendre, comme vous, demain. À quelle heure c'est les audiences ?
9h, entre 9h04 et 9h05, voilà à peu près. Donc si à 9h10, vous n'avez pas de texto de la réalisatrice, de la prod, etc., en général, ce n'est pas bon signe.
Ouais.
En général, vous êtes inondé de textos vers 9h04, 5, 6, si l'audience est bonne.
À 9h06, il y a un texto de ma mère, normalement.
Voilà, c'est ça.
Il va essayer d'aller... C'est où qu'on voit les...
Les...
Absolument. Non, c'est Nico Saliagas que vous connaissez bien et qui disait souvent, quand à 9h06, 7, je n'ai pas de message, je sais que... Bon. On s'est planté.
C'est fou, en fait, cette histoire d'audience.
Ouais, ouais.
C'est, en même temps, évidemment, ça crée quelque chose. Je trouve ça bien.
Bien sûr.
Mais est-ce qu'avant, comment ça se passait quand il y avait deux chaînes ? Ils faisaient quoi ? 39 millions, non ?
Ah bah, bien sûr, ouais, ça devait être ça, à peu près.
Mais on s'y trône.
Il y avait
76 millions.
Absolument.
Alors, on n'est que 50 millions.
C'était à peu près
ça. Oui, mais bon, avec la Belgique, la Suisse, il n'y avait que ça.
Merci beaucoup, Damien, pour ces news. Évidemment, on parlera demain, on l'a enlargé en travers de l'audience, d'apprendre à t'aimer. Tout de suite, place à la grande interview du Buzz. Et toutes vos questions, nous sommes en direct avec Harry Habitat. Face à vous, évidemment, chers internautes, M6 diffuse ce soir la fiction intitulée « Apprendre à t'aimer ». Ce sera à 21h05 sur M6, cette fiction qui raconte l'histoire d'un couple, vous et Julie Debonat qui attendez un bébé atteint de trisomie 21. Vous jouez le papa, évidemment, Julie Debonat, la maman. Comment réagissent-ils, Harry, la première réaction lorsqu'ils apprennent auprès du médecin que leur fille a ce qu'on appelle une anomalie chromosomique, hein, qui est la trisomie 21.
Ouais, c'est très dur pour lui. En fait, évidemment, les mamans, Julie Debonat, l'actrice dans le film, réagit toujours un peu mieux. C'est-à-dire qu'elle, elle va aller beaucoup plus vite à l'acceptation de la trisomie de notre fille. Et lui
pour
ne
vous,
saura
c'est
pas.
Plus dur, ouais.
Et lui ne saura pas faire. Il voudra fuir, il voudra partir, il voudra... Mais on est tous différents face à ça, en fait. Je veux dire, soit ça explose les familles, soit ça les rapproche, soit... Et lui, voilà, c'est un athlète, c'était un athlète de haut niveau, maintenant il est professeur de judo, il est dans la compétition, mais là, il ne saura pas faire. Donc il va vouloir fuir, et cette petite va le ramener à la vie. Cette petite va le ramener à l'essentiel. Vous savez, c'est des boules d'amour, en fait, c'est ses enfants. Et lui, d'où le titre « Apprendre à t'aimer ». Voilà. Petit à petit, ça va être un voyage initiatique en fait pour lui et ça sera, ça va être bouleversant parce qu'elle va lui dire « Mais comment tu peux partir? Comment tu peux pas être là pour l'anniversaire de ta fille ?» Parce qu'il est tétanisé par cette nouvelle. Évidemment, c'est pas l'enfant rêvé et il va comprendre que ses enfants, et je le dis d'ailleurs à tous les spectateurs et téléspectateurs, c'est des enfants qui démentent toute brutalité et toute violence dans ce monde.
Absolument.
C'est des gens qui demandent à être juste inclus dans la société. Ils ne sont pas malades. Voilà, ils sont atteints de trisomie 21, donc avec un chromosome en plus. Et ils ont une âme en plus aussi. Tellement, c'est des boules d'amour, tellement ils sont... C'est des êtres magiques.
Les parents que vous avez rencontrés, notamment pour préparer le rôle, est-ce que vous avez eu ce genre de réaction? C'est-à-dire que souvent, les papas au départ sont plus en retrait, voire comme le vôtre dans le film, fuient carrément au départ, disons-le. Ils vous ont dit à peu près la même chose?
Oui, c'est ça. Ouais. Effectivement, le père de Colline, Stéphanie a beaucoup parlé aussi avec lui. Il m'a dit, mais au début, moi, jamais de la vie, je ne voulais pas ça. Donc il a fui.
Il pensait à partir vraiment.
C'est-à-dire qu'il a fui en lui, quoi. Il n'était plus là. Son corps était là, mais il n'était plus là. Et aujourd'hui, quand vous l'entendez parler, et ça c'est vraiment c'est déchirant parce qu'il vous dit c'est la plus belle chose qui me soit arrivée. Et dans le film, il le dit, Franck, le personnage que je joue, il dit. Les enfants handicapés, c'est la plus belle chose qui puisse arriver. Et je dis, mais c'est de la folie de dire ça. Et en fait, il va le comprendre plus tard, effectivement. Il va le comprendre dans le film et dans le récit.
Effectivement, et notamment, ça reprend le titre, hein, Apprendre à t'aimer, puisque votre personnage va essayer, au fil du temps, d'abord de faire le deuil de cet enfant dont il rêvait et qui ne sera pas celui-là, et d'apprendre à aimer quelqu'un qui n'était pas celui qu'on a attendu pendant 9 mois. Est-ce que c'est là, au fond, qu'on ne se découvre pas soi-même, beaucoup plus en profondeur que par le biais de cet enfant?
Complètement. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, en tant que père de famille, je ne sais pas si vous êtes père de famille.
Trois.
Voilà. Et ben moi, pareil, j'en ai trois. Évidemment, on pense tous à ça au départ. Et je me dis, mais comment faire, en fait, quand ça arrive, un truc comme ça? Et ben lui, il a décidé tout simplement d'être fataliste et de se dire que voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc moi, je l'ai joué comme ça. Et je me suis dit, en fait, effectivement, si ça m'était arrivé, et je voyais cette petite fille, parce qu'on a joué avec une petite qui vient de naître aussi. Et on a joué avec Naomi, qui a 1 an et demi, 2 ans dans le film.
Il y a trois filles différentes qui jouent les rôles en fonction de l'âge.
Exactement, c'est ça. Et je ne vais pas dévoiler le film parce qu'il y a plein de choses.
Non, bien sûr, on est là pour donner envie, effectivement.
Oui, voilà. Et c'est vraiment la courbe de ce personnage, c'est l'histoire de la vie, quoi. Voilà.
Damien,
oui,
on prend des questions.
Il y a beaucoup de monde,
plein de fans.
En direct, sur la page Facebook de TV Magazine, sur le Figaro.fr, sur la page Facebook
du
Figaro.
Vous êtes trompé sur les chiffres, ils ont fait combien?
17 millions. 17 millions, exactement.
J'ai les chiffres de ce soir. J'ai les chiffres de ce soir.
En avant-première.
40 millions, mais c'est énorme. Alexandre, tellement hâte d'être à ce soir. En plus, votre duo avec Julie Debona va être tellement magnifique. Espérons qu'il y aura du monde devant M6. Voilà, c'est un message d'Alexandre. Anita aussi, qui regardera ce téléfilm et qui pense qu'elle va beaucoup pleurer aussi et qui vous souhaite une bonne journée. Voilà, vous aurez au moins 2 téléspectateurs. C'est déjà ça
de pris. Ça fait 2, ça va s'additionner.
Et on va prendre une question de Carole qui souhaite savoir si cette histoire est inspirée d'une histoire vraie.
Oui, c'est une histoire vraie. C'est l'histoire aussi des parents de Naomi. Après, le récit, évidemment, ça reste une fiction.
Bien sûr.
Mais les parents de Naomi l'ont su après, en fait. Et oui, mais il y en a plein. J'ai reçu plein de messages concernant cette histoire où les gens me disent « c'est exactement ce que j'ai vécu ». Et quand j'étais enfant, j'avais une cousine trisomique et je me souviens en fait qu'il n'y avait pas de différence en fait. Quand j'étais enfant, il n'y avait aucune différence et je m'amusais avec elle. Elle est décédée jeune et quand on m'a proposé ce rôle, en fait, ça m'a bouleversé parce que je me suis dit « tiens, c'est marrant parce que voilà, j'ai aussi vécu cette histoire à l'époque où j'étais chauffeur de taxi J'étais un des plus jeunes chauffeurs de taxi de France avec mon père, j'avais 19 ans, je crois. Et j'accompagnais des enfants porteurs de handicap de l'hôpital du jour à leur domicile. Donc, je connais.
Donc, vous les avez côtoyés, ouais. Effectivement. Et la trisomie 21, on en parle régulièrement. Il y a des tests qui sont faits, notamment avant la grossesse. Mais elle véhicule aussi beaucoup de préjugés, hein, qui sont incarnés d'ailleurs à merveille par votre belle-mère dans la fiction, notamment cette méfiance, cette espèce de défiance. Vous, est-ce que vous avez également appris de ce tournage et que votre regard a aussi changé? Vous nous avez raconté avoir été en contact.
J'étais en contact, je les connaissais. Ça, donc, connaissais déjà. Par contre, ce que je voulais, moi, en faisant ce film, je voudrais vraiment dire que quand les gens vont croiser des enfants ou des gens trisomiques dans la rue, je voudrais évidemment que le regard change. Voilà. Et je veux plus qu'il y ait cet écart de différence. Au contraire, je voudrais que ce soit un plus. Je voudrais que ce soit une force. Et je voudrais qu'on les inclue dans la société. Voilà. Qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent faire leur vie sans qu'il y ait une différence entre nous et eux.
Damien.
Allez, on va prendre une question assez intéressante et on est vraiment curieux de savoir votre ressenti. C'est Karim qui souhaite savoir comment on en ressort après avoir fait un tel tournage. Est-ce que vous en êtes ressorti indemne? Est-ce que vous avez été profondément bouleversé? Votre vie a changé?
Je ne sais pas si ma vie a changé.
Mais en tout cas, sur le tournage, ça a été vraiment...
Oui, j'ai ressenti quelque chose de très fort parce qu'on a tourné avec beaucoup d'enfants. On a beaucoup d'adultes aussi, trisomiques. Je ne vais pas vous dévoiler le film, mais à un moment donné, on est avec beaucoup de trisomiques sur un plan et tu as la gorge serrée tout le temps. Quoi. Ce tournage, on l'a fini il y a plus d'un an. Je les ai revus pour une projection et j'ai tenu Naomi dans les bras. Je n'arrivais pas à parler, je ne sais pas, ça me bouleverse en fait. C'est des gens qui me serrent la gorge à chaque fois et ils me donnent envie de pleurer parce que encore une fois, je vous dis, c'est des gens qui vont vous... c'est des êtres qui vont vous remplir le cœur. Et je le dis aussi à vos spectateurs, c'est pour ça que c'est important de voir ce téléfilm.
Et justement, vous parliez des tournages. On s'habitue, on se met à la disposition, comme vous disiez, de ces enfants. On sait, notamment par Stéphanie Pilonka, la réalisatrice, qu'il y a des scènes qui ont été quasi improvisées parce que tout d'un coup, l'enfant fait quelque chose, vous vous mettez avec elle et on filme alors que ce n'était pas forcément prévu, c'est ça?
C'est exactement, comme ça c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle tournait avec un chef opérateur et un cadreur, caméra à l'épaule, façon documentaire. Donc, elle me disait, il faut aller là pour aller là pour aller là, mais il est très possible que tout va changer au moment où. Donc, quand j'avais Naomi dans les bras, effectivement, elle demandait ça, elle allait ça. Je me rappelle, on rentrait dans une boulangerie et je l'avais dans les bras. Donc, elle regardait derrière et il y avait un plateau avec des gâteaux. Et pendant la prise, évidemment, elle prend les gâteaux,
elle mange.
Ouais. Et moi, je joue avec ça et je suis mort de rire. Et c'est beau et c'est la vie. Et ce film, c'est la vie pour ça parce que chaque... plan, c'était la vie. Chaque plan, on ne savait pas ce qui allait se passer. Donc, voilà. Donc, à un moment donné, après, il lui enlevait ou elle pleurait. C'est pour ça que je dis que des fois, quand elle pleurait, quand on lui enlevait quelque chose, je lui dis, mais laissez-la faire, quoi. Donnez-lui tout ce qu'elle veut. Et moi, j'ai joué avec elle. Et j'aime jouer comme ça. J'aime jouer avec cette part d'improvisation aussi. Et on le voit beaucoup dans le film. Elle a gardé beaucoup de scènes comme ça qui paraissent complètement improvisées et elles le sont.
Et elles le sont vraiment. Évidemment, on a l'habitude de vous voir dans des comédies, Harry, hein, c'est bien entendu votre registre. Est-ce que, comme beaucoup d'humoristes, vous aviez en tête ce petit côté, on appelle ça faire un Ciao Pantin en hommage à la Coluche, mais est-ce que dans un coin de votre tête, il y avait « Ah, le jour où j'ai vraiment quelque chose qui m'intéresse, je le ferai » ou est-ce que ce n'était pas forcément une obsession d'avoir un vrai rôle sérieux, un peu dramatique? C'est venu comme ça.
C'est venu comme ça. Tout est venu comme ça, en fait. Dans ma vie, je crois que je n'avais pas de plan vraiment, de carrière. Moi, ce que je voulais, c'est monter sur scène, faire rire les gens. Voilà, on m'a donné ça.
Donc, de l'humour à la base, évidemment.
Oui, voilà, j'aimais ça. Et c'est pour ça que c'est formidable, ce métier, parce qu'il y a des réalisatrices comme Stéphanie Pilonka qui viennent vous voir un jour au spectacle où les gens sont morts de rire et elle voit autre chose. Elle m'a dit, j'ai vu autre chose, voilà. Et je me suis dit, tiens, je vais t'écrire un film. Et elle m'écrit ce film.
En disant, tu peux faire ça et...
Oui, voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est beau aussi. Mais je joue évidemment avec la même sincérité. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu que apprendre à t'aimer qui va passer ce soir. Voilà, c'est-à-dire que ce film, le lien avec tout ça, c'est moi.
C'est un tournant dans votre carrière, ce téléfilm, Harry, à titre à la fois personnel et professionnel?
C'est un tournant parce qu'évidemment, c'est un rôle à contre-emploi. Donc, ouais. On ne m'a jamais vu là-dedans. Donc, je ne sais pas si c'est un tournant, mais c'est la continuité. On dit que je suis un acteur comique, d'accord, mais dans acteur comique, il y a acteur.
Ouais,
donc, c'est pour ça que ce métier est formidable pour ça, c'est-à-dire qu'on a la chance d'avoir des opportunités très ouvertes et pourquoi pas tourner d'autres films, voilà. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot dans la comédie et dans mes conneries. Hein,
ah non, ça, on espère encore, Damien.
Bah justement, tiens, c'est une très bonne transition pour poser la question d'un internaute tout à l'heure qui, au tout début, voilà, c'est Alexandre qui souhaitait savoir s'il y aura un tournage d'un troisième volet pour Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu.
Ah, la question qu'on pose tout le temps.
Je vais vous répondre, oui, il y en aura.
Ah, génial, et c'est quand?
Alors, je pense qu'on va le tourner, là, on ne sait pas, hein, ouais. En 2071, peut-être.
Vous serez masqué pour ce tournage?
Alors, le tournage est prévu l'année prochaine au printemps et il y a même une date de sortie en octobre 2021. Ouais. Mais bon, voilà.
Il y a encore un petit peu le temps d'en parler. Oui. On parlait tout à l'heure justement d'humour, on parlait de ce dessinateur qui avait été viré après un dessin jugé sexiste. Est-ce que des comédies comme Qu'est-ce qu'on a fait au Mon Dieu ou Qu'est-ce qu'on a encore fait au Mon Dieu, justement, c'est pas la bienvenue dans cette époque qu'on traverse où là on casse les préjugés, on y va avec à la fois le racisme, la religion, etc. Est-ce que ça fait pas du bien et que le succès populaire, hein, vous avez fait presque 20 millions d'entrées en deux films, le succès populaire montre qu'on peut encore.
Complètement, le public a répondu en fait. Quand ils se sont rendus en masse dans les salles, quand au tome 1, il y avait 13 millions de gens qui ont... Et moi, je trouve ça formidable. Ce film, ce n'est pas un film politique, c'est un film profondément humain. C'est juste qu'on a réuni les gens dans une salle de cinéma, on a réuni les gens en famille, ils regardent ce film en famille. Et ça, je trouve ça magnifique. Voilà.
Qu'est-ce que ça fait quand on est justement dans un film comme ça? On atteint les 13 millions, on le rappelle, hein, c'est un chiffre très rare, hein. Vous faites partie du top 10, 15 des plus grands succès en France. Ça change complètement la vie, ça? Ou alors, vous étiez plutôt sur Coco qui a fait un peu moins d'entrées, mais où là, vous avez été vraiment révélé au grand public. C'était quoi le plus fort pour vous?
Tout change, en fait. Ouais. Chaque étape de notre vie, ça va changer. Tout change, même des événements qui ne sont pas à la télé, change. Ça a changé.
Mais pour votre carrière, Coco, ça a changé, évidemment. Et qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu aussi?
Coco, ça a changé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu? Évidemment, ça a changé parce qu'on fait 13 millions en France, mais on fait 25 millions en toute l'Europe. C'est-à-dire, quand je fais une escale à Düsseldorf et qu'il y a un mec qui dit « Is wartet for me,
quand je vais… » Vous parlez allemand.
On a été même pour les Goya à Madrid. Et c'est ça, en fait, qui change. C'est-à-dire, aujourd'hui, je suis un vrai Européen et j'en suis fier.
Damien.
Alors, on salue Pascal, on salue Tira, on salue Céline, qui vous adore. Voilà, un petit message de sympathie. Un excellent acteur, il est capable de nous faire rire comme de nous faire verser une larme. Ça, c'est Jean-Luc. Et il y a une question aussi de Chantal qui souhaite savoir quand est-ce que vous remonterez sur scène? Est-ce que vous avez des perspectives de reprise?
Oui, bien sûr, j'ai des perspectives de reprise, mais pour ça, il faut qu'appelle le gouvernement.
Qui rouvre les salles.
Qui rouvre les salles sans distanciation.
Vous allez jouer au Puy du Fou,
sinon. Oui, voilà.
Apparemment, on a le droit là-bas.
Ou dans un avion, vous pouvez aussi.
Ou dans un avion, effectivement, ils sont collés avec un masque.
Ouais, c'est vrai.
Là, j'ai fait mon deuxième spectacle qui est sur la plateforme Amazon Prime. Ouais. Et oui, j'écris tout le temps. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir l'application Notes là sur le téléphone.
Sur
voilà, sur les smartphones. Donc j'écris et je me prépare au prochain spectacle. Je me prépare aussi à ce qu'on nous donne la chance de rejouer. Et oui, la scène, c'est formidable parce que la scène, on joue et le cinéma, on a déjà joué. Donc la réponse est immédiate. Peut-être l'année prochaine, je ne sais pas, mais voilà, j'aime monter sur scène, pour moi c'est une nécessité.
Une dernière question, vous êtes évidemment plus rare à la télévision, on voit davantage au cinéma et sur scène, est-ce que pour vous aujourd'hui, cette fiction, ça peut aussi vous conduire à faire davantage de télé? Quand je dis télé, je parle aussi bien des chaînes classiques que des plateformes comme Netflix, comme Amazon, beaucoup de productions maintenant françaises sur ces plateformes-là. Est-ce que pour vous, la passerelle est totalement ouverte? Il n'y a plus de snobisme de l'un par rapport à l'autre?
Vous avez raison de parler snobisme, il n'y en a plus aujourd'hui, ça n'existe plus. Non. Aujourd'hui, on est acteur à la télévision, on est acteur au cinéma, on reste acteur. Et aujourd'hui, la télévision donne la chance aussi de pouvoir faire de belles productions, que ce soit évidemment sur TF1, sur M6, sur France, télévision.
Ou les plateformes, bien sûr.
Et aussi les plateformes. Je veux dire, aujourd'hui, dans les plateformes, on a vu Robert De Niro faire un film avec Martin Scorsese. Donc,
absolument, oui.
Aucun snobisme d'aller sur les plateformes ou à la télévision. Tout ça, c'est fini.
Tout de suite, pour notre rubrique de fin, on va passer au sucré salé. Vous allez voir. Sucré salé, c'est comme dans la vie. Vous êtes plutôt sucré, plutôt salé. Je vais vous faire deux propositions, Harry. Et vous devez choisir entre les deux par rapport à la fiction de ce soir. Si je vous dis Julie Debona ou Annie Gregorio, qui joue votre maman.
Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir?
Comme ça, celle avec qui vous préférez jouer, par exemple.
Alors, j'aime beaucoup Annie Grégory, elle me fait beaucoup rire. Elle joue ma mère dans le film. Ouais. J'ai déjà joué avec elle dans Les Visiteurs.
Oui, c'est vrai.
J'ai joué dans Les Visiteurs.
Des fois... Absolument.
Non, mais il faut savoir se réjouir quand même. Ouais. J'ai joué dans Les Visiteurs. C'est-à-dire que moi, dès à 30 ans, j'allais au cinéma les regarder, j'étais mort de rire. Et un jour, je sors comme ça du plateau et je vois Jacouille la fripouille et Godefroy de Montmirail, c'est formidable. Donc oui, j'ai joué avec Annie Grégory, avec qui on a beaucoup ri, et Julie Debona était une actrice et une partenaire magnifique. donc c'est différent, mais c'est un bonheur, j'aime les actrices.
Plutôt drame ou comédie?
Évidemment, plutôt comédie, mais encore une fois, pour défendre une cause ou pour interpréter un rôle qui me tient à cœur, je serai toujours là.
On n'hésite pas. Télé ou cinéma, s'il faut choisir?
Ah, j'aime beaucoup le cinéma.
Ouais, quand même.
Ouais, je peux aller au cinéma à 10h du matin et ressortir à 18h.
Ah oui, oui j'enchaînais les films.
Ah oui, j'enchaîne les films. Donc ouais, j'aime beaucoup le cinéma. Il y a quelque chose de... Voilà. Chaque fois que ça commence, la lumière s'éteint. J'ai en général des picorettes, en 82. Et j'adore manger au cinéma, j'adore boire au cinéma. Je sais pas, toujours la même place comme ça, sur le côté. Et en général, j'enlève les chaussures. Si je suis avec un pote, elles finissent en général devant.
Et là, il y a une vraie distanciation.
On va finir avec faire du judo ou regarder Netflix.
Alors, faire du judo, j'ai fait du judo, parce que vous parlez de ça, parce que Franck, dans le film de ce soir,
professeur de judo,
il est professeur de judo. Donc, on m'a appris un peu le judo. C'est très compliqué. J'ai compris que j'étais vieux, que j'avais mal à l'épaule, qu'à un moment donné, il me dit, en fait, tu prends le gars. J'ai dit, ah oui, non, parce que j'ai très mal. Enfin, voilà, j'ai été un peu rigide, mais non, je préfère regarder
Netflix,
tranquillement. Netflix, ou je sais pas, moi, le sport à la télé en général.
Merci beaucoup, Hervé Habitant. Merci d'être venu nous voir. Je rappelle que vous êtes à l'affiche ce soir de la fiction Apprendre à t'aimer aux côtés de Julie Debona et de ces trois merveilleuses petites actrices qu'on va découvrir dans
et
cette
Youssef
fiction.
Et aussi qui joue mon ami dans le film.
Absolument. Et qui va ouvrir évidemment beaucoup de regards et donner un regard neuf, on espère, aux gens sur la trisomie 21. Ce soir, 21h05 sur M6. Ne regardez pas le match de l'équipe de France. Il n'y a pas Mbappé, de toute façon. Ça ne sert absolument à rien. On est d'accord.
Et puis vous l'avez déjà vu il y a 2 ans.
Absolument. Et on a gagné. De toute façon,
et on a gagné. On connaît le score. On sait qu'ils vont lever la Coupe du Monde. Enfin voilà.
Bien.
Pour revoir
c'est
un match en replay, ça n'a pas de sens.
Merci encore, Hervé Habitant.
Merci.
Damien, nous on sera de retour dès demain avec un nouvel invité.
Avec un animateur qui est très regardé, qui anime Koh-Lanta. Bon, ben voilà, j'ai déjà tout dit. Il s'agit de Denis Brognard que nous recevrons demain, qui viendra nous présenter la nouvelle saison de ce jeu d'aventure dont le succès ne se dément pas au fil des saisons.
Cet invité, c'est irrévocable.
Ah, c'est irrévocable. C'est sûr que ce sera lui.
Ce sera demain. La nouvelle saison de Koh-Lanta a démarré. Préparez toutes vos questions pour Denis Brognard. On se retrouve demain pour un nouveau Buzz TV.
Nos ados ont vu tous les Miyazaki. Ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
Alors, je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
Incroyable! Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé.
Waouh!
Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
Oh, je nous y vois déjà.
Avec Marco Vasco, ne rêvez plus. Vivez votre voyage l'esprit libre. Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.